Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille 8makers.
Yes.
Comment ça va ?
Super, hein, et toi ? Comment ?
Très bien, merci beaucoup. Bienvenue dans BPM. 8makers, producteur qui produit depuis un peu moins de 10 ans. Et il a fait résonner ses beats trap pour des artistes tels que McTyre, Take a Mike, C-Boy, Ous et ces dernières années plus particulièrement pour SDM, avec de nombreuses productions sur ses albums Ocho et Lien du Sang. Avant qu'on parle de ton CV, de ta discographie en tant que producteur, j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur. C'est quoi ton premier souvenir lié à la musique ?
Bah, c'est plus mes parents, on va dire. Hein. Moi, je suis congolais et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, étaient plus mondains, tout ce qui était Koffi Olomide, etc. Mm-hmm. Et ma mère qui était beaucoup plus musique religieuse.
Okay.
Donc, j'ai vraiment bercé dans ce truc-là quoi, depuis tout petit. Quoi.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que tu entends par musique religieuse ?
Bah, c'est plus musique religieuse, mais genre du pays, quoi.
Ok.
Il y a plusieurs artistes, hein, tout ça, etc. Mais ouais, voilà, en gros, c'est ça. Quoi.
Donc, bercé depuis l'enfance, en tout cas, par cette musique du pays d'origine de tes parents.
C'est ça.
Tu es né en France ou tu es né au Congo ?
Non, je suis né à Paris.
Ok, d'accord. Et ensuite, t'as grandi où ?
À Vitry. Hein.
Vitry ? Mmh. Ok, donc born and raised, comme disent les Américains.
C'est ça.
Ok. Quel est ton premier souvenir lié au rap, après justement cette première sensibilisation à la musique à la maison ?
Ça s'est fait en deux temps. Hein. D'un moment, à l'époque, on avait les 6 chaînes, et puis d'un moment, le câble est arrivé.
Exactement.
Et quand le câble est arrivé, je me rappelle d'un clip que j'avais vu sur MTV Base à l'époque. C'était Dirt of Your Shoulders de Jay-Z.
Mm-hmm. Sur l'album, le Black Album.
C'est ça.
Produit par Timbaland, ouais.
Et là, je me dis, mais c'est quoi cette musique, tu vois, c'est incroyable. Et puis, étant natif de Vitry, on sait déjà que, voilà, Rof, tu descends de ton bâtiment, ça coûte du rap. Tu vas acheter du pain et du rap. Tu vas même au parc. T'es là tranquillement avec tes frères. Et là, bizarrement, il y a un gars qui arrive en voiture. Il blaste du gros rap. Il y avait ça partout à cette époque-là.
À ce moment-là, t'es adolescent ?
Non, j'étais un enfant.
T'as été un enfant ? T'as été né en quelle année ? C'est pas discret.
98.
Ok, d'accord. Oui, donc effectivement, ouais, si on est sur. Tu parlais de Jay-Z, 2003, 2004, t'as 5-6 ans, effectivement. Ouais, ouais.
Quelque chose comme ça, ouais.
Ouais. Et du coup, justement, de ce moment où tu comprends que cette musique te plaît. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, plus tard, consciemment, inconsciemment, peut-être progressivement, une sorte de déclic de vouloir faire aussi du son, toi ?
Bah, ça s'est fait depuis petit, en fait. Hein. Je reviens encore à cette époque-là où j'étais enfant. On était en Belgique et dans une église, j'avais vu un tonton en train de taper une batterie. Mm-hmm. Et je me suis dit, ça a l'air fun et tout. Donc, j'avais essayé et Dieu merci, il s'avère que j'avais un talent dedans. Donc,
ta première sensation, toi, de créer de la musique, ça s'est fait par la batterie, du coup.
C'est ça.
OK.
Donc, un moment incroyable. T'imagines, c'était à la fin du culte, les gens, ils partaient, ils ont entendu un petit en train de taper une batterie, ils sont rentrés. Tu vois. Donc... C'est vraiment incroyable. Quoi.
Et de là, t'as continué justement à jouer de la batterie ou c'était juste comme ça une petite sensibilisation à un moment donné quoi ?
Non, c'était plus un déclic pour ma mère. Quand on est rentré en France justement, elle m'a acheté une batterie.
Ok.
Donc, ouais.
C'est courageux pour des parents, je trouve, d'acheter une batterie à des gamins.
Mais non, après, c'était pas les batteries de ouf. Hein, c'était vraiment les batteries pour enfants, ouais, etc. Okay. Mais voilà.
Ok. Et du coup, t'as continué longtemps justement à essayer d'apprendre peut-être par toi-même. Est-ce que t'as eu des moments de cours de musique ? Comment ça s'est passé ensuite ?
Non, même pas. En fait, j'ai tout appris de moi-même. Hein, parce que là, de cet âge-là jusqu'à un peu plus tard, j'ai continué sur la batterie. Après, j'ai décliné sur le piano. Mais ça, c'était avant de faire les prods.
Ok. Tu vois ? Donc, tout ça en autodidacte ?
C'est ça.
Ok. À quel moment, du coup, t'en parlais ? À quel moment tu commences à te mettre à faire des productions ?
On était en internat, je me rappelle, parce qu'à un moment, je suis rentré en internat. Et
c'était quoi ? C'était collège, lycée ?
J'ai fait collège là-bas et début de lycée.
Ok.
Après, je suis retourné à Vitry. Mais ce qui s'est passé, c'était pendant un moment, il y avait un frérot qui mettait un son, c'était BMF de Rick Ross. Et là, je me suis fait, mais c'est pas possible. Pour moi, à ce moment, je fais, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire sur ce genre de son? Il fallait que je comprenne. Je me disais pas, je vais faire une grande carrière dedans. Mais c'était plus en mode, faut que je comprenne ce qui se passe dans ça, en fait.
Ouais, ça a déclenché quelque chose dans ta tête sur, je veux comprendre. Il y avait une curiosité, quoi.
C'est ça. I think I'm Big Meech, Larry Hoover, whipping work, hallelujah, one nation, under God, real niggas getting money from the fucking stars. Quand j'ai écouté cette prod-là, en plus, le frérot, il mettait tout l'album, c'est-à-dire qu'il y avait l'enchaînement MC Hammer, BMF, et là, je fais, mais... Tu comprends pas.
Je pense que ça a traumatisé une génération. Ces deux prods de Lex Luger, plus son travail pour Waka Flocka Flame sur Flocka Valley, je pense que vraiment, ça a traumatisé une génération. Et cet enchaînement, comme tu dis, le MC Hammer BMF, c'est quand même assez terrible.
Ben oui.
C'est la guerre.
Carrément. C'est... Mais moi, je vois ça, je me dis, oh, mais comment il peut faire ça? Comment on peut faire ce genre de... Et là, c'est là que c'est venu, quoi, les prods.
Du coup, on est en 2010.
Quelque chose comme ça, ouais.
C'est le renouveau de la trap, justement, avec l'arrivée de producteurs comme Lex Luger, Southside, Mike Will, un tout petit peu plus tard, bref, tous ces producteurs-là. Quand on commence à produire, en général, tu sais, on émule, on imite. C'était le type de son que tu faisais, justement, toi?
Carrément. Dirty South, moi, c'était ce truc-là, que, mais c'est une espèce de trap 808 Mafia. Tout ça, là, TMLE8 et Southside, pour moi, c'était carrément mes...
Tes modèles, ouais.
Ouais.
Tu faisais des bons type beats? Tu faisais des bons... Hate Mafia type beats?
Non. Et non, franchement, si je te montre mes premières prods, tu vas rigoler. C'est n'importe quoi. Mais, et en plus, les premières prods que je faisais, c'était même pas ce genre de choses. Hein. Je me rappelle, j'étais en train de refaire Crank That de Soulja.
Hey, tu sais quoi, t'es le deuxième à me dire ça, puisqu'on a eu Benja il y a pas très longtemps.
Ah ouais,
Benja m'a raconté la même chose, que lui aussi avait essayé de refaire cette prod là.
Mais c'est vraiment le premier truc que je me suis... Je rentre dans le logiciel et la première chose que je fais, c'est avant de savoir faire tout ça, faut que je comprenne au moins la science dans un truc un peu bête, entre guillemets.
Ouais, je comprends, ouais.
Histoire de comprendre les mécanismes du logiciel, quoi. Et ça s'est fait par Crank That.
Oui, parce qu'en plus, donc là, quand tu dis logiciel, du coup, j'imagine que c'était FL Studio, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Oui, donc en plus, typiquement, c'est la production qui a un peu permis de... ou en tout cas, qui est une de celles qui a permis de démocratiser ce logiciel-là, justement, FL Studio, parce que ça a été fait là-dessus. Donc, on est vraiment sur, effectivement, le son d'usine, quoi, comme on dit. C'est vraiment le truc du logiciel, quoi.
Bah oui. Bah, même tous les sons qui ont été faits dans cette prod-là, il me semble que c'est carrément les sons d'usine. Hein. Donc, ouais, carrément.
Est-ce que tout ça, tu le faisais tout seul, ou est-ce que tu étais dans un entourage ou avec des potes, eux aussi, ils avaient eu cette curiosité de vouloir faire du son?
Du son, c'est-à-dire
faire des prods, ouais.
Bah, j'avais des frérots qui faisaient du rap à un moment.
Ok.
Mais sinon, à part ça, je crois que y a que mon petit frère qui est là derrière, parce que lui aussi il kiffe la musique.
Ok.
Et que lui et mon grand frère, mon autre grand frère, qui était là derrière, qui regardait et qui félicitait et qui encourageait tout ça, etc. Et qu'ils n'hésitaient pas à me dire quand ça puait la merde aussi. Tu vois, donc j'avais déjà un entourage très honnête, donc.
C'est ce qu'il faut, c'est le plus important.
Bah oui.
Et alors, c'était la question qui suivait justement dans ma tête, c'est à quel moment tu t'es dit que c'était peut-être le bon moment de faire écouter des prods pour des rappeurs, justement?
À quel moment? En fait, ça s'est fait plus ou moins par hasard.
C'est quoi, c'est une rencontre, peut-être?
Même pas. C'était... on travaillait avec un frérot à moi, Shems Cameron. Et au bout d'un moment, lui, il partageait déjà des clips, tout ça, etc. Parce qu'il fait des clips, etc.
C'est un réalisateur de clips, tout à fait. Ouais.
C'est ça. Et un jour, il partage C-Boy.
Ok.
Un jour, il partage C-Boy, c'était le clip de Barbarie. Et là, j'ai serré ma tête, j'ai fait, mais non, mais...
Oui, c'était un des premiers gros clips qu'il a fait découvrir, ça, de mémoire, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Il me fait, écoute, j'entends Barbarie. Je fais, mais c'est la première question que je fais, mais c'est qui se fout? Tu vois? Non, il est trop fort. Je me fais, non, il faut que... J'avais une prod qui traînait là. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai rien à perdre, je vais lui faire écouter. Et je lui envoie et ça prend. C'est le son qu'on a fait, c'est Ennemi.
Ennemi.
Donc, c'est là que ça, c'est carrément de là que tout est parti en fait.
Je vais les monter en l'air! Fais ma confiance, tu la mauvaise graine dans ce putain de rap game, derrière comme ces trous de balle. Je suis cagoulé, trop amnésique pour être une boucave. Écoutez dans les têtes. C'est ton prix je vais faire faire. Pompe sous mes sons, père. Gardez le moral, mes frères.
Effectivement, là, on est sur vraiment de la. De la trappe avec les, un petit peu d'éléments drill aussi, la drill de Chicago, tu sais, les grands crashs là d'orchestre, là on est vraiment là-dessus quoi. C'est la guerre quoi.
Carrément.
Les filtres passe-bas aussi, les trucs où t'as l'impression que de ressortir de la mer, etc. Parce que ce que faisait beaucoup Mike Will justement.
Bah ouais, carrément. Hein, complètement dedans. Bah ouais, bah en plus la prod elle s'appelait War si je me rappelle bien.
Bah voilà. Ça trompe pas. Voilà. Ça trompe pas, c'était fait pour faire la guerre.
Carrément.
Cette prod, tout de suite, ce premier placement, ça a changé beaucoup de choses pour toi?
Carrément, hein. C'est là que je fais, c'est de là que découle une bonne partie de mes collaborations. Hein. J'avais collaboré, c'est même là que je fais mes placements les plus importants, entre guillemets. Hein. J'ai commencé à placer pour Dossé, Alonso, tout ça, etc. En coprod. C'est parti de là, en vrai.
Là, on est au milieu des années 2010. Donc, si mes calculs sont bons, tu m'as dit que tu étais né en 98. Tu sors tout juste, tu es encore adolescent, en fait, à 17-18 ans. C'est ça? Même peut-être moins.
Même pas moins. Hein. Ouais. J'avais, là, on parle de 2015, j'avais, allez, 16 ans, 17 ans.
16-17 ans, ouais. Tu comprends ce qui t'arrive à ce moment-là? Ou t'es encore tellement dans l'enthousiasme de jeunesse que c'est encore, tu vois, encore flou, tu vois, de ce qui t'arrive d'arriver d'un seul coup à avoir ces possibilités-là, quoi?
Comment répondre à ça? Je pense que, en fait, plus ou moins, je suis toujours resté calme hein, par rapport à ça, en vrai. Hein. Je ne laisse pas ce genre de choses à essayer de rentrer dans ma tête. Ouais. J'ai toujours été normal par rapport à tout ça, quoi. Vraiment, pour moi, c'était le boulot. On fait du son, on kiffe le son, on est heureux d'en faire. Et on a la grâce d'en faire à une plus grande échelle que ce que je faisais avant. Tu vois. Donc, pour moi, c'était une bénédiction et on a saisi le truc comment c'était. Quoi, et voilà, quoi.
Tu faisais quelque chose parallèlement, des études?
Je
travaillais
à ce moment-là.
Ouais. Tu faisais quoi comme études? C'est pas indiscret.
Non, je faisais. J'étais en STI 2D. À ce moment-là. Attendez, à ce moment-là. Ouais. Hein. Ouais, si. Parce que c'était quand je suis revenu à Vitry que ça avait. Ouais.
Et t'arrivais à concilier les deux?
Oui et non, parce que malheureusement, entre guillemets, à cause de ça, j'ai raté le bac.
Ok.
Donc, oui et non, en vrai.
Ouais. Tu t'es concentré sur le son.
Voilà. On dit, à bout d'un moment, t'as un choix à faire. À ce moment-là, j'avais pas réussi à concilier les deux, j'ai préféré faire de la musique, quoi.
Quand on regarde tes premiers crédits, justement, là, entre 2015 2016... Tu citais Dossé, tu citais aussi Caris sur l'album Boku Nyakuri. Et c'est quand même assez rigolo parce que Dossé, c'est le morceau Milliers d'euros sur lequel il y a Young Thug en featuring. Caris, c'est le morceau 2017 sur lequel il y a Gucci Mane. Donc, encore une fois, là, t'as même pas encore 18 piges, t'as même pas encore 20 piges, tu vois, et t'arrives à faire des placements de featuring de rappeurs, de gros rappeurs français en plus, qui invitent des Caris. Donc, j'imagine que c'est quand même assez. Même si t'avais peut-être les pieds sur terre, tu devais être quand même assez content de ce qui t'arrivait, quoi.
Ces deux placements-là en question, là, ouais. C'est les moments-là où j'étais vraiment le plus... je me dis, enfin, tu vois. Non, mais c'est toujours un honneur. On connaît Gucci Mane, sa carrière, on sait ce qu'il est, ce qu'il représente surtout, ne serait-ce que pour sa ville ou même dans la scène rap, on sait très bien ce qu'il représente. Et me dire que dans mon CV, je peux inscrire le nom de Gucci Mane ou même celui de Young Thug, là, c'est trop fort, c'est trop puissant. Ouais. C'est trop puissant. Yeah.
Y'a 7 jours dans la semaine, 7 couleurs différentes de billets. Si c'est un signe, qu'il en soit ainsi. Je vais récupérer l'or qu'ils ont pillé. Hey. Wesh, en réfoi. Si j'enlève la puce, là tu me remets. C'est le Joe de la dernière fois. Équipé chaveau comme jamais.
À ce moment-là, je me rappelle, j'étais avec mon petit refait. Mais gros, je lui dis, mais gros, mais on est en change. J'ai placé Gucci, mais il me fait, vas-y, arrête tes conneries. Donc, non, ça franchement, ça fait plaisir. Donc
c'est vrai que là, quand on revoit, donc j'ai cité ces deux noms qui sont Alonso, non justement Dossé Caris, il y a aussi Alonso, il y a aussi Lefa, donc à chaque fois des gros noms. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des placements que tu arrives à faire par envoi de mail? Est-ce que tu es parfois en studio justement pour essayer de travailler les productions? Voilà, c'est que des choses que tu as travaillé de ton côté et qui ensuite se retrouvent entre les mains de ces rappeurs.
Ceux-là, c'était vraiment plus des envois de mail. Hein. J'allais pas spécialement au studio à cette époque-là et j'étais à l'école.
Ouais.
Donc, c'était principalement des envois de mail.
Sur ces productions, il y a des co-crédits avec un monsieur, Mr. Punisher. qui était quelqu'un déjà de plus installé. Comment ça se passait du coup ? Est-ce que c'était lui qui faisait des arrangements ? C'est lui qui faisait la connexion ? Comment
C'était une collab hein, en vrai. C'était carrément le même principe qu'une collab quoi. Je fais la prod, il fait quelques petits arrangements derrière, il envoie. Ça se passait comme ça quoi.
Ok. On parlait du fait que tu viens du 94. Et il y a un rappeur justement du 94 avec qui tu as fait des placements justement, dont un morceau qui s'appelle 4 vérités, qui s'appelle Take a Mic. Qui a été un morceau en plus qui s'est retrouvé sur NBA 2K18. Ah. Donc c'est quand même une belle vitrine. J'écris mes 16 avec le sang de mes balafres. Je me creuse la tête pour ne rien faire de banal. Éviter les bananes, la magie c'est banal. J'ai commencé tôt poteau, t'avais pas l'âge. 2001 sous marché là quand je me balade. Si je le fais pas, qui sauvera le Val-de-Marne? Plus 13 pas là, j'ai des projets en marche. Y'a que les mots et les MC que je mâche. Tu boycottes, tu suceras si ça marche. Comment ça s'est fait cette connexion avec, avec Take a Mic? Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel t'as plus éventuellement collaborer de manière plus proche que sur des envois?
Bah ouais, bah on a commencé comme ça et ensuite on s'est rencontré en studio pour travailler sur un autre album. C'était Avant-Gardiste, si je
Avant-Gardiste, tout à fait, ouais.
Et ouais, franchement, ouais.
Est-ce que quand tu, déjà à ce moment-là, t'as une gamberge de te dire il faut que j'arrive à cibler sur ce que fait tel ou tel rappeur, justement, en essayant d'avoir une espèce de proposition personnalisée? Où tu envoyais ce qui te semblait être le plus fort dans ton catalogue quoi.
Moi j'opérais comme ça. Hein. Ouais. Moi il y a pas de ciblage à ce moment-là, il y avait vraiment zéro ciblage. Les meilleurs prods que je faisais, j'envoyais.
OK. Et prenez qui voulait prendre.
Voilà, prenez qui voulait prendre, peu importe.
OK.
À ce moment-là, je bossais comme ça.
Et donc toujours cette ambition de faire du gros son, du lourd quoi.
Toujours. C'est carrément même comment dire, c'est carrément une condition pour moi, c'est je peux pas genre sortir quelque chose genre c'est claqué au final, tu vois.
Est-ce que tu essayé d'écouter tes prods dans un environnement autre que celui de ton casque, de ta chambre, éventuellement de tes enceintes? Est-ce que, je sais pas, parfois tu filais ça à des potes pour qu'ils écoutent ça, je sais pas, tu vois, dans leur caisse, ou tu vois, pour voir comment ça marchait quoi?
Il y a un son, je me rappelle, je ne sais plus lequel, à l'époque j'étais dans un centre commercial, il y avait un type qui passait, et c'était la première fois hein, que je vis ça, un gars passait et c'était un de mes sons. Mais je me rappelle ce moment-là, mais que j'étais en train de câbler, c'est un truc de fou, vraiment comment ça sort et tout. J'étais trop content, j'étais trop fier de moi. Et c'est là que je me dis que, mais en fait c'était vraiment le fruit du travail quoi. Je me dis, j'ai quand même travaillé pour en arriver là, les gars qui écoutent ce genre de son, si ça les plaît, tu vois. C'est le but en vrai. Donc, moi, je suis content derrière, quoi.
Sur ces placements-là que j'ai cités, il y avait aussi, par exemple, quelqu'un comme Ous aussi, pour lequel tu as placé. Est-ce qu'il y a une production en particulier sur cette première partie de ton parcours que tu aimes particulièrement et pourquoi?
Bah, je crois que c'est 2-7-0-10-17. Pour une simple raison, c'est que le jour où j'ai échoué au bac, j'ai fait cette prod-là.
Ah ouais. Donc en fait, on est complètement c'est ce que tu disais tout à l'heure, de faire un choix. Et t'as fait un choix de produire ce morceau qui deviendra de 0-10-17.
Ouais, c'est ça, carrément. Chopper in hand and I'm going him, I chop a blam. If you didn't come in here with Bridgeport, then you better scram quick. Got my own clothing line, call that shit Atlantic. 17, I own it on my own Atlantic.
Un des premiers albums sur lesquels on va te retrouver avec un peu plus de production que simplement des placements un peu éparses, c'est Banger 3 de McTyre. Comment tu arrives à travailler sur ce disque?
Encore une fois, ça, c'était par le biais de Punisher. Hein. C'était par le biais de Punisher. Et voilà. J'avais envoyé, comme d'habitude, hein, à ce moment-là encore aussi, j'envoyais des prods. Et lui, il l'envoyait derrière, et voilà. Hein. Comme d'hab.
Donc voilà, encore une fois, là, on est sur cette économie-là, quoi. Du placement, t'envoies des trucs et il prend, quoi.
C'est ça.
Il y a une grande variété de production, justement, en termes de couleurs musicales, sur ce qu'a choisi McTyre parmi ton catalogue, justement, dans ce disque. Moi, il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, c'est Lamine. Tu te souviens de Lamine ou pas?
Oui, si.
Tu vois, parce qu'il y a une mélodie très glitchée, enfin, tu vois, il y a plein d'effets dessus. Et je trouve ça intéressant parce que je sais pas si c'est qu'une impression d'auditeur ou si c'est le cas, mais tu sais que tu commences à plus maîtriser ton outil de production quand tu te permets de faire des trucs comme ça, quoi, tu vois.
C'est ça. Bah, on est carrément dans ça. Hein. Je commence un peu à maîtriser tout ce qui est vraiment logiciels, de, bah, de glitch, tout ça, etc., de saccader, de vieillir, comment vieillir une prod. C'est là, c'est à ce moment-là que je commence vraiment à comprendre ce, comment faire ce genre de choses.
Travailler les textures des morceaux, quoi.
C'est ça. Et bah, justement, bah, les mêmes techniques-là, bah, ça m'a servi quand j'avais fait un dernier son, la SDM Freestyle 8. J'avais utilisé les mêmes procédés, donc voilà quoi.
Au charbonneur qui monte à la mine, ceux qui perdent pas leur couille quoi qu'il arrive. J'ai déjà mesuré les risques, j'ai flotté Starossa comme Ferrari.
Je trouve qu'il y a une saveur aussi sur un morceau comme celui-là, qui est très très vis, une influence un peu très viscott, tu vois, dans, même dans les arrangements, ce genre de choses. Et je t'ai posé un peu la question en off avant, s'il y avait une production en particulier qui t'avait marqué en tant qu'auditeur, tu vois, et même déjà dans une commerce de producteur, c'est un morceau très viscot, justement.
Ouais.
C'est 90210.
Fort.
Pourquoi ce morceau en particulier, il a été important pour toi, justement, en tant qu'auditeur et producteur?
Bah, justement, pour, ce qui est drôle, c'est que pour ce son-là, ceux qui me connaissent bien, ceux qui connaissent mes productions, ils étendent ce son, ils font « Mais attends, mais il n'y a rien à voir. » Mais en vrai, justement, c'est là où ils se trompent, c'est parce que 90210, pour moi, c'est le son parfait qui mélange un certain calme et une certaine rage. C'est, je sais pas, c'est comme pour moi, c'est, comment dire, c'est comme le sommet, genre d'un... Genre, on peut, je vois pas une meilleure manière, genre de comment faire une prod où tu peux mettre du calme et de la rage en même temps et que ça fonctionne, tu vois. C'est, pour moi, cette prod-là, c'est vraiment, pour moi, 10 sur 10, incroyable. On dirait pas trop de la trap, on dirait pas trop du rap, mais je capte que c'est du rap. Enfin, je sais pas comment l'expliquer.
Ouais,
mais
ouais.
C'est voilà quoi.
C'est une hybridation réussie quoi.
Voilà.
On avance dans ta discographie. Donc là, on était vers 2017, comme je le disais, avec avec l'album Banger 3 de Mac Tyer. On arrive sur 2018. Avec, tout à l'heure, on citait Take a Mic, justement, avec l'album avant-gardiste, sur lequel tu commences aussi à sortir de ta zone solitaire, on va dire, puisque sur un album comme celui-là, il y a un morceau coprod avec Chaps, par exemple, Chaps Beats, qui s'appelle Ouais, Petit Frère.
Ouais.
On retrouve parfois aussi Easily et Jack Flag. Alors, je ne sais pas s'ils ont plus travaillé sur les top lines, par exemple, que sur les productions. C'était nouveau pour toi d'avoir ce, ce truc de collaborer, de ne plus être seul face à ton ordinateur?
Bah là, là tu as dit 2018, je rentre chez, chez Red Nation.
Ok, oui, c'est effectivement, c'est une étape importante et c'est bien que tu en parles. Ouais.
C'est carrément là. Donc en plus, c'était la première session que je fais avec Red Nation, c'est-à-dire que Easy, Jack Flag, c'est là que je les vois. Et bah, on a fait ce morceau-là, ils ont aidé à la top line, ils ont aidé à la prod aussi. Et voilà, Chaps, pareil, on s'était vu là-bas et voilà quoi, la connexion s'est faite. Quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de Red Nation pour ceux qui ne connaîtraient pas?
Red Nation, c'est une boîte d'édition, c'est une boîte de management. Et il y avait Easily, il me semble qu'il n'est plus là-bas. Jack Flag et Cercle Labo aussi, on peut retrouver là-bas.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi de signer en édition, donc j'imagine que c'est ça du coup, de signer en édition dans une boîte comme celle-là?
Moi, à ce moment-là, c'est fort. Hein. J'arrive, je me retrouve un peu tout seul à ce moment-là et je vois Donzo, qui est le responsable de la boîte, qui m'envoie un message et tout. Et à ce moment-là, je me dis, je regarde un peu les crédits, je vois Easily, etc. Et à ce moment-là, ils ont fait des KR. Je fais, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je me dis, mais je vois pas pourquoi est-ce que je devrais passer cette chance-là. J'ai signé direct.
Tu sentais que tu pouvais manquer d'opportunités d'être tout seul, justement, et de pas avoir une équipe comme celle-là?
Carrément. Si pour moi, il y a une équipe, pour moi, c'était l'équipe, à ce moment-là, c'était l'équipe la plus qualifiée qui me soit, qui m'ont fait une proposition, j'ai pas hésité, quoi. J'ai vraiment pas hésité, ils étaient carrés, tout s'est très bien passé au final, et voilà, quoi.
Sur ce disque de Take a Mic, justement, avant-gardiste, moi, il y a une production que j'aime bien. Tu vas me dire si tu partages mon avis là-dessus. C'est... Alors, je ne sais jamais si c'est Brolic ou Broliqué.
Broliqué, oui.
C'est Broliqué, parce que parfois, il y a marqué Brolic. Parce qu'on retrouve encore une fois cette trappe un peu saturée, psychédélique, tu vois, sur laquelle tu commences à développer des choses, quoi.
Carrément. Ben là, encore une fois, c'est des choses que j'aime faire. C'est des choses que, quand j'ai l'occasion de faire et que les artistes aiment, j'hésite surtout pas. Et voilà, derrière, t'as Easy, ce fou furieux qui arrive. Parce que j'ai fait la première partie de la prod. Et on arrive sur l'outro. Et là, Easy, il me fait, attends. Il sort un piano, il sort deux, trois petites notes. Il me fait, j'essaie de jouer ça, papa, papa. Et là, on arrive sur l'outro du son que moi, personnellement, j'aime de fou. C'est même la partie que je préfère dans cette prod-là. Tu vois l'espèce de piano à la fin, là.
Ouais.
C'est incroyable. Incroyable. Je mets dans, et c'est là que aussi je comprends pourquoi est-ce que même Easy, même, il en est là aujourd'hui. C'est force de travail. C'est trop fort. Et encore une fois, voilà.
Hey, soit je m'évade, soit je perds la raison. Parle pas au fun, les cœurs vont faire la liaison. Celle qui occupe toi de ton cul et tes réseaux. Un cœur insensible dans ma tête, trop de lésions, yo.
Est-ce que justement, quand on est producteur, parce que là, vous faites ça aussi avec Take a Mic, qui était peut-être ouvert à ce genre de proposition, tu vois, parce que je pense même à un morceau qui arrive un tout petit peu après, je crois, qui s'appelle Alcantara, où il y a une petite flûte un peu étrange, dissonante, tu vois. Est-ce que aussi, quand on est un producteur, qu'on a des idées, qu'on veut être créatif, il n'y a pas aussi un truc de bien choisir les artistes avec lesquels on bosse, justement, pour qu'ils soient ouverts à ce genre de proposition, quoi?
Ouais, mais moi à ce moment-là, j'avais pas capté ça.
Ok.
C'est vrai ce que tu dis, mais à ce moment-là, moi j'étais pas dans ça.
Ouais, c'était pas dans cette gamberge-là encore, quoi.
Encore, pas encore. Ouais. Moi j'étais vraiment. À ce moment-là, j'étais toujours dans le. T'as une prod qui est bien. Pour toi, elle est bien. Les gens autour de toi valident. Tu sais que c'est ce qu'il faut envoyer.
Tout simplement.
Tout simplement.
Quand est-ce que t'as eu justement ce début de gamberge à comprendre que faire sa place et se faire connaître et faire connaître sa musique en tant que producteur et sa singularité? C'est aussi, ça passe aussi par le choix des gens avec, enfin des rappeurs qui vont poser dessus, quoi.
Bah, je commence à travailler aussi avec le 432 sur comment ça s'appelle, sur Capoint. On a travaillé sur le projet traditionnel. Et c'est là que je commence vraiment à comprendre ce que c'est de travailler avec un artiste, tu vois. Et à cibler mes prods, à ne pas proposer n'importe quoi. Donc, on a vraiment fait un travail de sélection dessus, quoi. J'ai vraiment fait un effort dessus, quoi.
On s'approche presque de la réalisation, d'une certaine manière.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça, carrément ça.
Et effectivement, ça, je trouve que ça commence à se sentir un petit peu. Alors, peut-être parce que tu me le dis, maintenant, ça me paraît évident, tu vois. Donc, c'est peut-être un peu facile pour moi. Mais c'est vrai que sur un album comme celui-là, le premier morceau, alors je ne sais jamais bien le prononcer, partout, tu vois.
Partout, ouais.
Partout, tu vois, je ne sais jamais avec ce H, UH, tu vois. Partout.
Ouais.
C'est vrai que là, tu vois, on retrouve ta patte, ce truc de trap un peu psychédélique, de lead un peu texturé, glitché. Et ça va peut-être dans le sens de ce que tu dis, d'accompagner vraiment l'artiste dans la direction artistique du morceau, quoi.
Carrément, hein, carrément. Parce que je me rappelle, quand je lui fais écouter la prod, la première chose qu'il me fait, mais... Ah ouais, c'est quoi ça? Je fais, mais t'inquiète, fais juste une top lane dessus, ça va le faire. Et boum, c'est là, il sort, ouais, partout, je suis dans... C'est bon. C'est bon, on a trouvé le truc, voilà.
130 zombies traînent sur le parking. Y'a que des visages marqués par la vie. Que des flashs tard la nuit. C'est plus des keufs, c'est des papas.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Plus de vues, plus de sous, plus de bitch, plus de parasites. Je canne avec la fille d'un papa raciste. Et puis tant pis si les paravis.
On arrive en 2019. Deux choses importantes. Déjà, tu participes à l'album La Franchie de Kobalade.
Ouais.
Je te vois sourire. Et justement, sur cette espèce de folie de qu'il peut y avoir dans tes productions, avoir quelqu'un avec le grain vocal de Koba, je trouve que ça matche assez bien sur vos deux prods.
Mais carrément. Mais tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que moi, avant d'arriver là-bas, j'avais un peu chaud. Je me disais, Koba, ah, je sais pas trop quoi lui proposer, je t'avoue. Et je suis avec mon petit frère encore une fois. Et je lui fais jouer une prod. Et bah, c'était la prod de Gueudreau, ouais, pour commencer. Et là, il me fait, il se prend sûr. Moi, j'ai fait, vas-y, t'es un fou, je pense pas. On arrive là-bas, c'était parce qu'il avait fait un séminaire là-bas dans une sorte d'espèce de manoir comme ça. On arrive là-bas, je joue la prod. Bah allez, boum, c'est bon, allez, emballe le truc. Je me rappelle, je l'avais pas terminé. J'avais juste fait les huit premières mesures. Allez, finissant, bam, 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 boum, t'envoies, boum, t'es posé dessus.
On a commencé le rap à 3, je suis au pyramide, je suis au bunker. Et comme je faisais des temps, pas je bossais mes saisons, one change, je retournais bosser. Je fondais dans la ville, allez, dans le PC, chou qui se fait sucer. Inspiration débordante, on m'a demandé de faire mon album en 10 jours. Et
s'explique tout. Faut toujours écouter ses petits frères.
toujours.
T'es pas le premier producteur à me dire, c'est mon petit frère qui m'a dit que, c'est pour ça que je dis ça.
Ah ouais, mais après c'est pas un petit, hein. C'est quoi, on a 2 ans d'écart.
Ouais, ouais, bien sûr.
Donc voilà.
C'était Ozora Miyagi qui m'avait dit ça sur la prod de Génération Assassin. Mm. Il avait dit, tu devrais l'envoyer à Booba. Voilà, il a écouté son petit frère. Donc tu vois, il faut leur faire confiance parfois.
Carrément.
Et ça, alors c'est cool que tu cites Gueudreau, parce qu'entre Gueudreau et La Détail, qui est l'autre morceau sur lequel tu es crédité sur cet album-là, mm-hmm, moi c'est Gueudreau que je préfère, parce que justement, encore une fois, on arrive à cette lead avec une texture, c'est plein de petits détails rythmiques dans le beat aussi, mm-hmm, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur du kick, snare, hi-hat, tu vois. Tu rajoutes des choses, des trucs en contre-temps, etc. Je trouve que ça enrichit, tu vois, la rythmique et ça montre, tu vois, le travail, tu vois, que t'essayes d'apporter à tes productions, le soin, quoi.
Carrément. Et bah, un autre détail important, c'est que, en fait, tu vois, le piano, c'était une prod que j'avais fait avant. D'une prod que j'aimais pas du tout.
Ok, ouais.
Et j'ai pris le piano, j'ai petite coupure, petit truc, tout ça, etc. Et voilà, quoi. Saturation, comment on appelle ça, half time dessus, mm-hmm, boum, et voilà, quoi.
Parfois, on peut se nourrir de choses qui finissent dans des tiroirs, finalement, des brouillons, de quelque chose qui est dessus, pour nourrir l'inspiration de... En fait, il n'y a jamais rien, quand on est musicien, qui est inutile, quoi.
Justement, c'est même moi, c'est ce que je fais. Hein. D'ailleurs, c'est même la prod cette prod-là qui m'a donné une certaine leçon, entre guillemets, de ne rien jeter. Mm-hmm. Faut surtout rien jeter. Sur un coup de tête, peut-être qu'à l'époque, t'as fait une prod, mais que t'avais pas spécialement l'approche technique pour pouvoir mieux l'exploiter. Mm-hmm. Quelques temps après, tu retournes, t'écoutes la prod, tu te dis, mais en vrai, il y a quelque chose à faire si je récupère ça, mais je mets à ma sauce de maintenant. Mm-hmm. Comment je fais les prods maintenant? Il y a moyen que ça aboutisse sur un placement ou même si ça ne se place pas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette prod-là sera toujours meilleure que l'autre. Tu vois. Donc, ça reste une satisfaction, quoi qu'il en soit. Quoi.
Tu parlais de capacité technique. Mm-hmm. Est-ce que du coup, à ce moment-là, ou peut-être c'est plus tard aussi, est-ce que t'es ce genre de producteur aussi à être dans l'apprentissage constant? C'est-à-dire, d'un moment donné, tu sens que tu as des limites et tu te dis, mais comment je peux faire ça? Est-ce que tu regardes des tutos? Est-ce que tu te renseignes justement pour avoir cette capacité technique à être plus polyvalent, à être, tu vois, aller plus au fond des choses par rapport à tes idées, quoi?
Carrément. Bah, là, j'ai carrément même acheté des synthés. Mm-hmm. Donc,
parce que juste là, tu étais uniquement sur du virtuel, donc du VST. Et de...
Carrément. Là, je me suis même mis à acheter des synthés, à m'intéresser à tout ce qui est modulaire, analogique, tout ça, etc. Mm-hmm. C'est important de savoir, parce que la musique, c'est riche, c'est vaste, et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et tu parlais d'un apprentissage constant, mais on est carrément dedans, en fait, parce que moi, je me vois pas, genre, on va dire, allez. À l'heure actuelle, j'ai 24 ans, je me vois pas genre à 45 ans, par exemple, me dire j'ai appris tout ce que j'ai appris dans la musique, c'est bon. Non, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et si c'est pas par la trappe, par exemple, ce sera même par exemple par la musique classique, tu vois.
Ouais,
il y a toujours quelque chose à
bien
apprendre.
Sûr, il faut avoir cette curiosité-là. Hein.
Ben oui, la musique, la musique, c'est trop vaste, c'est trop riche. Et je trouve ça dommage de se mettre dans une case d'apprentissage, quoi. Donc voilà, quoi.
À ce moment-là, donc je le disais, on était vers 2019, etc. Mmh. Ton matériel, à ce moment-là, il a changé ou t'es toujours, grosso modo, sur du FL Studio avec en plus des VST?
Ouais, encore dans cette config. Hein.
Ok. Toujours. Donc c'est vraiment plus à ce moment-là, comment tu utilises au maximum, tu tires profit au maximum des outils qui sont à ta disposition et de tous les effets qu'il peut y avoir justement pour être le plus créatif possible, quoi, c'est ça ?
C'est ça. Après là, moi je suis quelqu'un qui, par exemple, la prod elle peut être terminée, je peux même essayer de quelques petits plugins par-ci par-là, ça marche pas, quoi.
Ok. Alors je le disais, 2019, il y a aussi, c'est aussi une année importante parce que c'est tes premiers placements avec SDM. Comment s'est fait la rencontre avec SDM ? Et comment vous êtes mis à travailler ensemble ?
Bah, je te parlais d'un travail qu'on avait fait avec Capoin. Et c'est son éditeur Crime qui m'envoie un message. Il me fait écoute, j'ai un gars là qui rappe, c'est pas mal ce qu'il propose. Je t'envoie des sons à lui qui l'a déjà fait. Tu me dis. Et moi, personnellement, moi, je suis ouvert. Moi, vous m'envoyez des sons. Écoutez, il n'y a pas de souci. C'est cool. Il m'envoie deux sons. Et là, je fais... il y a quelque chose à faire direct. Je fais...
Qu'est-ce qui t'a plu ? C'est son énergie, sa voix, sa manière de poser, son écriture. Est-ce que tu te souviens d'un truc en particulier où tu t'es dit, putain, il y a un truc là ?
C'est sa voix, sa présence vocale. C'est, pour moi, c'est sa plus grande force. Il a un truc, un certain timbre...
Un truc féroce, je trouve.
Voilà. Donc là, je me dis, quand j'entends ça, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Ça, c'est la première chose que je me dis, il y a quelque chose à faire. Donc, directement, on s'est plugué. Directement, j'avais commencé par faire des envois de prod. Et il les prenait. Jusqu'au bout d'un moment, il s'est dit, en fait, je commence à beaucoup trop les prendre. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, au studio. Et là, c'est là qu'on se rencontre, première session studio, boum. Et le son, le premier son qu'on fait quand on se rencontre au studio, c'est Lové, le son qui est sur Ocho.
Gaz de billets dans la main peut réparer mes histoires de love. Des camps et un 9 mm pour réparer mes histoires de love. Et pour mettre à l'abri mes proches, j'hésite pas à tirer sur les vôtres. La main droite pour tenir mon line, la main gauche pour compter mes potes.
Donc ça, c'est marrant parce que le premier son que vous faites, il va se retrouver sur l'album plus tard. Et entre temps, vous faites des sons. Qui vont être ces morceaux sortis comme ça, qui vont contribuer un peu à nourrir son buzz.
C'est ça.
Je pense à Shotaz, Rule Number 5, Midi.
Ouais, à Midi, ouais.
Voilà, donc tous ces morceaux-là, en fait, c'est des choses déjà qui sont... qui arrivent après un morceau, finalement, qui va se retrouver sur l'album. Donc ça, c'est plutôt marrant, quoi.
Bah oui, bah oui.
Là, on arrive vraiment sur ce que tu décrivais tout à l'heure, que tu as senti avec Capoin. C'est-à-dire que là, tu es vraiment dans l'accompagnement de réalisation aussi de ces morceaux-là. Avec SDM ?
Carrément, ouais. Carrément. C'est un peu, c'était le même procédé.
Ouais.
C'est le même procédé. Je lui envoie une prod. Ou là, on est au studio, je lui fais écouter une prod. Après, SD, c'est une machine aussi. Hein. Franchement, ça va trop vite. Tu fais ça avec SD, ça va trop vite. Tu fais écouter une prod. S'il valide la prod, il va se mettre directement à écrire dessus, ou tout ça, etc. Mais une fois qu'il a fini d'écrire, ou la première chose, des fois, ce qu'il fait, c'est top line. Il top line directement, il trouve une mélodie. Dessus et voilà, ça prend directement. Pas besoin de top liner ou quoi que ce soit. Surtout pas besoin que je top line aussi parce que je suis pas très beau dans cet exercice.
C'est pas ton forte.
Non. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé les top line. Non, c'est pas pour moi ça.
C'est bien, t'as été lucide, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi.
Bah oui, non.
Et donc tu le disais, y a donc, je citais ces morceaux qui sortent avant pour nourrir justement l'engouement autour de lui. Mais vous travaillez assez rapidement donc, sur ce que va devenir des morceaux pour son album, son premier album Ocho, qui sort en 2021. Et entre-temps, il y a eu le confinement. Entre le moment où vous vous rencontrez et comment vous commencez à travailler ensemble et le moment où ce premier album sort. Comment toi, tu as vécu cette période-là de confinement ? Est-ce que ça a freiné ta créativité ou au contraire, ça t'a permis d'être contraint de plus bosser ? Comment tu as vécu cette période-là ?
Ah non, moi, ça m'a freiné.
Ouais.
Non, moi, je ne vais pas te mentir, ça m'a freiné. C'était carrément pour moi. C'était carrément même... Je parais dramatique quand je dis ça, mais c'est les pires années de ma vie.
Okay.
Carrément. Pour des raisons, j'ai perdu des proches, j'ai perdu des tantes, j'ai perdu... C'est incroyable, hein, le Covid, le confinement, tout ça. Donc moi, au final, comme je suis quelqu'un, je suis plus une... Je suis une éponge, en gros. Quand il y a une bonne atmosphère autour de moi, je sais que je peux pouvoir faire quelque chose. Mais quand quelque chose, ça va directement, ça tourne au vinaigre, je sais que niveau créativité, ça sera pas là, quoi.
Le personnel a affecté voilà, ta créativité et du coup, le côté professionnel, quoi.
Carrément.
Ça, Et c'est vrai que quand on regarde tes crédits, il y a moins de choses de signer à ton nom. C'est du fait justement que tu n'arrivais plus à produire, tu n'arrivais plus à placer, comme tu expliquais, à cause de cette situation personnelle qui était compliquée.
Carrément, mm-hmm. On est carrément dans ça. Hein. Ah, c'est ouais. Même pas une question de fébrilité technique ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une question de, voilà, au niveau personnel, c'était pas ouf quoi.
Comment tu as réussi à surmonter ça en discutant avec des proches, ton entourage professionnel, personnel? Ou est-ce que c'est toi qui as trouvé les ressources en te disant, mais en fait, non, tu vois, il faut que je m'y remette, quoi, tu vois?
Bah, c'est un mélange des deux. Hein. Mm-hmm. J'ai été vraiment, 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 vraiment aidé par Donzo. Mm-hmm. Moi-même, d'un moment, je me dis, gros, on va pas rester là comme ça quand même. Il faut quand même faire des deux.
Ouais.
Voilà.
Ça peut pas s'arrêter maintenant après ce que tu as réussi à construire, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est plus ça que je me dis. Je dis, mais non. Tous les sacrifices que tu as fait, tu as quand même sacrifié un bac. Mm-hmm. Pour pouvoir faire tout ça, ça serait bête et vraiment stupide que ça s'arrête maintenant à cause d'un petit pépin. Bon, un petit pépin, j'abuse.
C'était ouais, les choses de la vie, disons.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Donc, directement, tu te dis non, faut se motiver, faut trouver la solution. Tu te démerdes, tu trouves quelque chose et voilà quoi.
Et on se retrousse les manches et on y va quoi.
Exactement.
Du coup, je le disais, il y a l'album d'SDM qui sort, qui s'appelle Ocho, mm-hmm. sur lequel tu as 4 ou 5 productions de mémoire.
C'est ça.
Parmi ces morceaux qui sont intro, Appeler les pimpons, Rihanna, Le bruit des applaudissements, est-ce qu'il y en a un sur lequel tu as une forme de satisfaction sur tu vois, les idées que vous avez développées avec SDM, justement, d'un point de vue musical?
Il y en a deux que mm-hmm. je préfère particulièrement. C'est intro et Rihanna.
Ok. Alors, c'est très bien. Moi, Rihanna, c'est ma préférée. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais intro, c'est peut-être celle que je trouve la plus intéressante parce que c'est un peu nouveau d'une certaine manière dans ta discographie, je trouve. Est-ce qu'on peut en parler de ce morceau-là?
Bien sûr. Bah, nouveau, non. Enfin, nouveau pour vous parce que ces sons-là ne sortent pas.
Exactement.
Mais
de ce qu'on entend, nous, en tout cas.
C'est ça. Ces sons-là ne sortent pas, mais il faut savoir que dans ce genre d'exercice, de tout ce qui est opéra, piano, mmh. tout ça, etc. Mmh. Bah, j'ai même eu l'occasion de un peu montrer ce que je savais faire dans Jacuzzi de Caris.
Tout à fait.
C'est ça.
Qui était ouais. sur l'album Okuna Gnakuri ouais, en 2016.
C'est ça. Donc tout ce qui est violon, brass, mmh. tout ça, etc., il y a une certaine maîtrise. Mmh. Simplement que ces sons-là ne sortent pas.
Ok.
Là, j'ai eu l'occasion. SDM, il arrive, il fait en mode, bon, on va rentrer en champion. On va rentrer, il veut faire une entrée triomphante. Donc, à la base, c'était Genda qui faisait le piano. Mm-hmm. Et on m'a appelé pour que je puisse faire tout ce qui est violon, tout ça, orchestre, etc. Mm-hmm. Donc, voilà quoi. Jack Fuego, la zone, je t'assieds à Calelo. J'rappe trop bien la ruche et gérer la mélo. Certains donnent la force, un monde de rapaces où la plupart voient SDM comme une menace. J'ai visé le sommet, la rue qui a fait de moi un bonhomme. Saddam et qui est SDM. Je vous laisse écouter mon bon mal. Ojo.
Ça pose l'ambiance tout de suite.
Directement. Bah là, on arrive. T'entends la prod, c'est comme si c'était genre le retour du héros, tu vois.
Ouais.
Ou voilà vraiment.
Oui, il y a quelque chose de très cinématographique.
Mais c'est ça, c'est carrément. Comment on appelle ça? Dans une œuvre, comment on appelle ça? Quand tu présentes les personnages, par exemple.
La scène d'introduction?
C'est ça. C'est bah, une intro, quoi.
Ouais, ouais.
Tout simplement.
Tout simplement.
Il présente sa vie, raconte sa vie, tout ça, etc. Sur une prod qui l'accompagne, qui mm-hmm. le met en mode, mm-hmm. voilà, c'est parti, on y va, quoi.
Ouais. Et donc, tu le disais, et c'est cool que tu le cites, parce que c'est aussi le morceau que moi que je préfère, la prod, en tout cas la prod que tu as fait sur cet album que je préfère, qui est Rihanna. Mm-hmm. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est ça que moi j'aime beaucoup dans les productions, notamment des productions trap, c'est ce truc d'être un peu dissonant, d'être un, tu vois, de chercher des textures, etc. Mmh. Et là, ce violon, on ne sait pas si ça vient d'un pays de l'Est, si ça vient d'Asie, tu sais pas, tu vois, mais il y a quelque chose d'étranger, en tout cas, tu vois, dans la sonorité. Mmh. Et ce beat avec plein de petites percus, voilà, c'est typiquement le genre de truc que t'aimes. C'était quoi un peu ton intention avec un morceau comme celui-là et cette prod-là?
La scène.
Ouais.
La scène. Moi... Quand je suis arrivé, j'ai fait son là, j'ai essayé ça, c'est pour la scène. Mm-hmm. Je ne m'attendais pas à voir des singles d'or, des singles de diamant avec ce son-là. Je fais ça là, c'est un son pour la scène. C'est un son quand tu arrives, tu mets ça, les gens ils sautent avec toi. C'est un son genre quand tu arrives, voilà, ça met l'ambiance, ça met le truc en feu, tout le monde là, ça crie de partout, ça saute de partout. Ça a clairement été fait pour ça.
Calibré, on va chez eux. Maintenant chez eux, c'est chez nous. À mon arrivée, ils m'ont vu comme Covid, ils sont tous restés chez eux. C'est carré, je suis dans l'as comme Xavi. Monté comme un cheval.
Monté comme un cheval, ta baby mama, elle me suit. J'ai encore mon jean sur les chevilles.
Quand le frérot il poste un peu ses extraits de concert et tout, etc., ça saute particulièrement sur Rihanna. Donc pour moi, je dirais objectif réussi.
Ouais.
Parce que moi, je l'ai vu comme ça. Et voilà quoi.
Objectif atteint, comme tu dis.
Carrément.
Et c'est vrai qu'en plus de ça, vous avez continué à sortir des morceaux hors album. Je pense à VLD, Freestyle 8, dont tu me parlais tout à l'heure, qui est une coprod avec Bloody.
Ouais.
Et tu m'as cité spontanément ce morceau-là, justement, tout à l'heure, tu vois, en avançant un petit peu dans le temps. Pourquoi ce morceau en particulier? C'est un truc qui t'est venu en tête quand on parlait justement de travailler les textures, etc.
Bah, parce que Bloody, on était tranquillement, et Bloody m'envoie un pack de loops. Dans ce pack de loops-là, il y a ce piano. Mais moi, j'ai serré, je fais, mais attends, mais il a joué, je sais pas où il a trouvé, je sais pas ce qu'il a fait. Mais moi, je pète ma tête, je fais, mais non, mais il est fou, ce petit. Et boum, je prends le piano, et je le pitch en haut, mais vraiment en haut. Et il s'avère que bah, ça a marché, ça a fonctionné. À l'oreille, ça plaisait bien. Donc derrière, je fais les drums, les basses, tout ça, etc. Et voilà, quoi.
Quand tu dis justement que tu le pousses en haut, tu vois, t'essayes des choses, est-ce que pour toi, être un bon producteur, c'est aussi ça parfois, c'est de se dire, aller chercher des accidents ou des trucs peut-être qui seront bizarres et finalement ça marche, quoi?
Bah, carrément, hein, carrément. Après, moi, je m'attendais pas à ce que ça marche. Moi, franchement, c'était vraiment un truc que j'ai testé. Ça marchait, ça plaisait à l'oreille, c'était pas strident.
Ouais, ouais.
C'était bon. Mais ça aussi, il faut savoir qu'un truc comme ça qu'on teste, on peut le faire que quand le sample est bon. Ouais. Et c'est pour ça, moi, personnellement, j'ai jamais hésité à donner les fleurs à Bloody. Le travail qu'il a fait sur la prod, c'est incroyable. Le piano, là, il est complètement fou, ce petit, franchement. Donc,
t'avais une bonne matière première.
Bah ouais. À partir d'un... Quand ton truc, il est bon de base, tu sais que t'as beaucoup plus de marge à faire. Donc, un truc, quand tu testes à pitcher en haut, il faut obligatoirement que le sample de base, il soit beau, tu vois, pour que ça réussisse.
Hey, j'ai un steak sur le feu et 4 putes en attente. Dans les 4, c'est sûr qu'il y a ta tante. N'invite que moi à la fête, mais tu connais, on arrive à 30. Hey, c'est pas le goûten gros, c'est le sang, moi au chaud, ma gueule. Ça tente le vrai, à côté, j'ai ma bouteille d'eau. Je veux lui niquer le dos, en même temps, je vois la Nintendo.
Salutations à Bloody que j'ai déjà rencontré une fois. Et surtout, faites attention à l'orthographe de son nom, tout en majuscule, sinon il se fâche. Voilà. B-L-2-O-D-Y, tout en majuscule. Salutations à lui.
Oh.
On continue à parler d'SDM parce que finalement, c'est l'artiste avec lequel tu collabores le plus aujourd'hui. Et, et donc, fin d'année dernière, il y a eu l'album Lien du sang qui est sorti.
Yes.
Sur lequel tu as de nombreuses productions encore. Je vais les citer, Jacques Musbag. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire Jacques Mus parce qu'il y a 3 étoiles. Jacques, quelque chose bague. Si tu savais, Monsieur Ocho dans le club. Voilà, un petit peu la même question que je t'avais posée tout à l'heure sur Ocho. C'est quoi un peu la production voilà, sur laquelle tu as le plus de satisfaction, tu vois, sur des choses que vous avez voulu développer avec SDM?
Je dirais 2 encore une fois.
Vas-y, pas de souci.
2 encore une fois. Monsieur Ocho, pour commencer.
Ouais.
Et je sais pas si c'est un choix dont tout le monde sera d'accord avec moi, mais si tu savais.
Ok. Alors, parlons d'abord de Monsieur Ocho. Alors moi aussi, c'est pareil. C'est la production que je préfère de ton registre sur cet album. Notamment parce que je trouve qu'il y a un truc de basse encore plus mis en avant, tu vois. Ce truc de synthé, on a l'impression qu'il est un peu en reverse, etc. Bref, il y a presque du travail, je trouve, sur une production comme ça, de sound design d'une certaine manière, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc, il y a un soin. Voilà, est-ce que toi, tu peux en parler de comment t'envisager ça?
Mais carrément. C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste un... En fait, faut que je raconte comment ça s'est passé.
Raconte-nous, on est là pour ça.
En fait, ce qui se passe, c'est SD m'envoie une top line. Il me fait, il faut que tu me fasses une prod dessus.
Ah, c'est intéressant ça.
Carrément. Et il avait déjà le refrain, c'est-à-dire l'idée du refrain, tout, etc. Il avait déjà tout. Et Dieu merci, j'ai une bonne oreille musicale. C'est-à-dire que moi, j'avais détecté, en fonction de comment il chantait, j'ai détecté les accords qui allaient avec.
Ok.
Mais à ce moment-là, je trouvais le truc, il était un peu simple. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai quand même... J'avais vu, il y avait juste le pad à ce moment-là. De là, j'ai rajouté tout ce qui est reverb, tout ce qui est j'avais racheté un phaser, j'avais racheté plein de trucs ici, tu vois.
Plein d'effets pour donner du grain au son, quoi.
Voilà, plein d'effets, mais du son, de l'espace surtout.
Ouais, ouais.
Et l'ingé derrière qui a aussi rajouté son grain, qui a mis aussi de l'espace dans le pad.
L'ingé qui est ?
Qui est Riff Six, Cyril.
Voilà.
Donc,
on parle jamais assez des ingés, donc c'est l'occasion de leur donner un peu leur fleur aussi.
Carrément, carrément. Il est arrivé, il a pris le truc, il l'a mis en 3D. C'est ça que j'appelle maintenant Monsieur 3D. C'est comme si t'étais dans le truc, je sais pas comment il a fait ça, mais c'est fort.
C'est immersif, quoi.
Carrément. Carrément. J'avais rajouté ce que j'avais rajouté, mais lui, ce qu'il a rajouté derrière, ça a donné encore plus de grandeur à ça. Et c'est fort, quoi. C'est vraiment fort.
Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps que j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, pour toute personne m'a parrainé.
L'intention de départ, c'était une top line SDM.
Mm-hmm.
Vous travaillez ça, tu le renvoies SDM. Quelle réaction il a eu justement quand il a entendu tous ces effets, etc. Tu te souviens ou pas?
Ça s'est fait en deux temps.
Okay.
En fait, il reçoit la prod. J'ai fini la prod, etc. Mm-hmm. Il reçoit la prod. Et pour le moment, tout va bien. Il dit, ouais, t'as vu, j'ai reçu tout ça. Bam, 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 boum. Jusqu'à là, pas de nouvelles. Et là, on arrive, c'est le séminaire qu'on a fait pour Bien du sang.
Mm-hmm.
Et là, il me fait, hé, mais frérot, mais j'ai oublié de te dire. Mais en vrai, j'ai posé sur la prod. Là, je fais, non, t'es sérieux? il me fait écouter et je fais mais ah ouais grandiose hein, le son quand même hein, pas mal hein, fort.
On est justement sur ce truc d'avoir quelque chose de très épique qui accompagne très bien sa voix, je trouve, sur une prod comme celle-là.
Mais c'est carrément le but hein, c'est carrément le but. C'est moi, comme je t'ai dit, j'avais déjà la top line, donc à partir de là j'ai plus de marge pour trouver la bonne cuisson entre guillemets, quoi.
C'est de la cuisine. La musique, carrément. C'est de la cuisine. Tout à fait. Tu me parlais de Si tu savais. Et tu disais, je ne sais pas si les gens vont être d'accord. Parle-nous justement de ce morceau-là. C'était quoi ton intention et pourquoi en particulier ce morceau, tu l'apprécies?
En fait, moi, j'aime bien tout ce qui est différent. Tout ce qui est un peu différent. C'est une prod que je n'ai pas l'habitude... C'est des prods que je n'ai pas l'habitude de faire avec des hâtes un peu drill.
Mm-hmm.
Mais pas drill.
Ouais, c'est exactement. C'est une semi-drill. On sait... Je comprends ce que tu veux dire.
Voilà, donc... Au premier abord, ça peut choquer. Et moi, ce qui m'a plu, justement, c'est que le frérot, il a directement accroché dessus, tu vois. Il dit, allez, c'est bon, direct, on pose dessus, boum, 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 et voilà, quoi.
Et c'est vrai qu'en plus, les batteries sont très discrètes. Toi qui as parfois un truc où ça cogne, là, on est sur quelque chose d'un peu en retrait comparé à d'habitude.
J'ai pas de kick.
Ouais.
J'ai pas mis de kick. Mmh. Et parce que je voulais pas en mettre. Je me suis dit, le frérot, il a une voix qui porte.
Mmh.
La basse porte. Et je pense que je me suis dit, avec la basse que j'ai mis, je pense que ça fera... entre guillemets, le travail du kick. Je ne voulais pas surcharger cette prod-là. Ouais. Je vais vraiment lui laisser la voix à lui. Et voilà, quoi.
Et ça, c'est parfois important, et c'est ce que me disent beaucoup de producteurs qui passent ici, c'est que, évidemment, vous, parfois, les producteurs, c'est normal, vous avez envie de faire des choses qui s'imposent, tu vois.
Mm.
Et que parfois, il faut penser aussi qu'il y a des interprètes qui vont poser sur votre son et de comprendre en plus leur texture vocale. Tu le disais là, finalement, rien qu'avec la voix d'SDM, bam! Tu vois, il y a cette basse finalement, il y a cette lourdeur juste avec son interprétation et t'as pas besoin de surcharger ta prod, quoi.
Non. Donc, non, franchement, j'ai pas spécialement besoin de surcharger même quoi que ce soit. Franchement. Encore une fois, piano de SHK.
Mm-hmm.
Et joli travail dessus, le piano il est incroyable.
Pourtant, je vois beaucoup trop, je puis pas assez. Je sais que j'ai des gros problèmes de foi. Quand le train de la bonne occasion, il passe à la tête. S'il faut le prendre, tire le frais, il passe pas deux fois. Hey, pépé, excuse-moi, t'as pas du feu. Au passage, j'aime beaucoup ta sacoche. Elle démarre avec des petites sacrailles. Il revient à mes avec sa clique. Une balle vers le ciel, maintenant ça court.
J'ai comme l'impression que ce son, il s'est plus ou moins porté tout seul. Ouais. Dans le sens où, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, ce son, il est particulier pour moi. Franchement, je sais pas comment expliquer, mais. Tant que je fais quelque chose qui est différent, qui n'est pas spécialement dans un truc que j'ai l'habitude de faire, c'est bizarrement ces sons-là qui vont, moi, personnellement, me rester dans la tête, quoi.
Est-ce que ce n'est pas ça le plus important, c'est de chercher la singularité, justement, quand on est producteur ?
Bien sûr. Après, j'aime bien aussi qu'on y ait faire des trap bêtes et méchantes.
Ouais.
On aime toujours ça.
C'est ton ADN musical, ça.
Bien sûr, voilà. Ça, on ne va jamais abandonner ça, mais de temps en temps, voilà, tu fais une petite virgule, ça fait du bien, quoi.
Parlons maintenant de ton avenir. C'est quoi un peu tes envies pour le futur ? Est-ce que c'est de continuer à développer affinités musicales avec un ou deux artistes? Est-ce que c'est continuer à placer? Est-ce que c'est de découvrir de jeunes artistes que toi, en tant que producteur un peu plus établi, tu peux pousser? Voilà. Est-ce que tu as des envies en particulier pour les mois ou les années à venir?
Envie, oui, bien sûr. Moi, si par exemple, il faut faire le même travail que je fais par exemple avec SDM, tout ce qui est vraiment aider à vraiment à apporter quelque chose au niveau de la production, tout ça, etc. Moi, je le fais. Moi, j'en ai, je disais même à Donzo, hein, j'en ai juste marre de placer bêtement comme
okay.
ça. C'est bien un moment, mais vas-y, il n'y a pas de suivi derrière, je t'envoie, merci, boum. Non, ça ne m'intéresse pas, ça.
Tu as le sentiment d'avoir fait un peu le tour de ça, peut-être.
Voilà, c'est ça. Je sature un peu par rapport à ça. Donc, les sons studio, c'est vraiment le truc que je privilégie le plus maintenant. Carrément, je fais même plus spécialement de prod chez moi. Hein. C'est, quand j'en fais, c'est littéralement au studio, quoi. Aux côtés des artistes. Ils prennent, je m'apprenne moi aussi de comment est-ce qu'eux, ils travaillent, par exemple. Et voilà, quoi.
C'est une autre manière de travailler peut-être plus stimulante, d'être au contact des artistes directement ?
Carrément, carrément, c'est plus stimulant. Mon petit frère, j'aime beaucoup, mais voilà, au bout d'un moment... au bout d'un moment, voilà, quoi. Il faut quand même que voilà, les artistes eux-mêmes, ils soient à côté, ils valident le travail, ils voient ce que tu fais. Et même, je trouve que c'est plus important... Je pense très sincèrement que SDM, par exemple, si j'aurais fait vraiment un système d'envoi, continuer dans le système d'envoi, je ne pense pas qu'on en serait là.
Ouais, que vous auriez créé cette affinité
justement,
à la musicale, ouais.
Je ne crois pas, je ne crois sincèrement pas. Donc, c'est quand même bien de, voilà, faut pas hésiter à rencontrer les artistes, même en cherchant à en développer d'autres. Et voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, on te le souhaite. D'avoir plus de place justement sur cette direction artistique, sur cette réalisation, puisque c'est une fibre que tu veux développer. Merci à toi d'avoir été avec nous pour nous parler de ton parcours. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner au podcast BPM de Bouscapé pour écouter les futurs épisodes et même les anciens. Et à très bientôt. Salut tout le monde.
Ciao, ciao.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.